Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Fin novembre 2016, Antoine et ses collègues des STUP voient le bout de l'affaire B-52 après un an de mission. Le hangar où va se passer le transfert de cocaïne est loué. Il se trouve en plein milieu de la zone d'activité de Saint-Frédéric, sur l'autre rive de l'Adour, à 9 km à peine de l'aéroport de Biarritz. Écoutez l'affaire B-52, épisode 7. Pour l'instant, pas de date pour la livraison, mais un indice permet aux enquêteurs de savoir que ça vient. Le neveu de Pablo Escobar, qu'Antoine et ses collègues soupçonnent d'être à la tête du réseau, vient d'arriver à Bordeaux. Est-ce que tu peux me raconter l'arrivée d'Escobar à Bordeaux ?
Ah, je me souviens très très bien de cette scène. Je me souviens qu'on était le 27 novembre, il débarque à Bordeaux avec son épouse. Tu vois, étonnamment, on s'y attendait pas. Lui, il arrive à l'aéroport dans une belle chemise blanche, ample. Tu vois le gars, 1m85, plutôt beau gosse. Elle, c'est une très belle femme, une latina. Ils en imposent, hein, le couple. C'est ce que je voyais, c'est ce que j'avais imaginé. Donc, le couple se met au grand hôtel, un intercontinental très luxueux, en face de l'opéra. Mais ils sont mignons, les deux tourtereaux. Ils avaient même prévu de se faire une petite escapade parisienne dans la foulée.
Pourquoi ils ne voulaient pas suivre l'opération de loin et depuis Medellin ? C'est hyper risqué de se pointer à Bordeaux quand on s'appelle Escobar, non ?
Ouais, pour toi, oui, peut-être. Mais là, légalement, en l'état, il y a quoi ? Pour l'instant, il y a rien. On va pas foutre en tôle un gars parce qu'il a le même nom que son oncle, Escobar, par exemple, quoi. Il est peut-être surveillé par nous, mais en fait, il y a un truc qui le tient, qui est plus moteur que ça vis-à-vis des autres, c'est qu'il veut montrer qu'il récupère la main. Il marque son territoire. Il fait le bonhomme, quoi. Après, il faut savoir que jamais il descendra plus bas que Bordeaux. En gros, jamais il va aller vers Bayonne, Madrid, ou les endroits un peu chauds. Donc bon, puis la cam, il va pas l'avoir non plus. Le hangar, il va jamais s'en approcher. C'est un procédé assez courant chez les trafiquants de ce rang. Il est juste dans les parages, en fait. Tu vois, il est de loin. Puis faut vraiment qu'on soit en enquête pour en savoir qu'il est là, en vrai. Et nous, bah, tu vois, en attendant, on va le mettre sur écoute pour prouver que nos soupçons et ceux de la DEA sont bien réels et sur son rôle dans l'organisation.
Il débarque le 27 novembre. Tu te dis que la livraison ne va pas tarder. Est-ce que vous finissez par avoir une date ?
Bah ouais, carrément. Là, notre informateur planqué à Medellin et la DEA, il nous explique que ça se prépare, que ça bouge à Cartagène. La CAM doit arriver à l'aéroport de Biarritz en jet privé en soirée du 30 novembre, normalement.
Une fois que vous avez repéré le hangar, on est à peu près le 28 novembre, j'imagine que vous allez, comme vous l'avez fait pour la villa lors du premier passage, le microter et poser vos caméras.
Je vois que tu commences à bien apprendre. Hein. Exactement. Donc l'avantage qu'on a avec cette histoire de hangar, c'est qu'il dort pas sur place. Là, à ce moment-là, il loge tous à Bordeaux et aux alentours de Bayonne. Donc il quitte les lieux le soir et tous les soirs, ils font la même chose. Donc nous, on en profite, on fait le double des clés. Et on installe donc notre surveillance avec nos techniciens plus tranquillement. On avait vu le hangar seulement de l'extérieur. Et là, on découvre qu'il y a une sorte d'étage, une mezzanine qui donne sur un bocal qui sert de bureau pour la compta et qui domine l'entrepôt. C'est tout bénef pour eux, car il va y avoir de la thune à compter au moment de la livraison. Et ils ont besoin d'avoir un endroit un peu à l'écart pour pouvoir faire ça. En bas, on repère un Fenwick, un chariot qui permet de soulever et d'enlever des cargaisons. Il y a aussi des cartons, donc on ne sait pas trop comment ça va être transporté à ce moment-là. Mais on sent que tout est très très organisé.
Et l'enquête, elle avance comment à ce moment-là ? Il reste 2 jours avant la livraison.
Bah tu vois, côté petite main, là, le chimiste, le comptable, toute la petite équipe qui, était restée là, là ça commence à être la paranoïa absolue. C'est des curseurs pour nous en vrai, hein, tout ça. Ils utilisent tous des téléphones cryptés pour le business. Et du coup, on ne peut pas trop avoir d'infos supplémentaires, mais leur comportement déjà, nous ça nous met en tension. En revanche, le neveu d'Escobar qui était resté qui est resté au Grand Hôtel à Bordeaux avec sa femme, il commet une erreur. En fait, il passe un coup de fil non crypté à son bras droit Quintero, parce que lui, il a pas de téléphone crypté, il n'est pas descendu avec ça. Donc nous, ça nous permet d'avoir la confirmation qu'il est là pour gérer le trafic et qu'il est à la tête du cartel. Donc la DEA est hyper satisfaite. Rien qu'avec ça, on a de quoi le faire tomber. Là, on va commencer 2 jours très tendus et on sait qu'on va enfin voir le bout, donc il faut rien faire capoter à ce moment-là. D'un côté, les trafiquants sont hyper à cran et un simple regard mal positionné dans une voiture, en surveillance, le moindre petit truc peut tout faire péter à tout moment, donc c'est hyper stressant pour tout le monde, y compris pour eux comme pour nous en vrai. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a un truc hyper similaire, hein, comme ça fait hyper longtemps que... qui sont sur place, ils font une erreur, c'est qu'ils commencent à appeler leurs épouses avec des téléphones et on les relève et là on entend leur conversation et on sent que là ce qu'ils leur disent c'est qu'ils vont pas tarder à rentrer au pays. Donc on sent que côté colombien c'est un peu comme côté stup français niveau vie perso, c'est tendu.
Et vous avez quelles infos sur cette livraison et sur son itinéraire?
En fait on sait que ça va être plus que les 700 kilos initiaux. La DEA nous a prévenu que les FARC avaient complété et que surtout on risquait d'avoir une bonne quantité. Bon, c'est plutôt cool pour nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau, ouais. Ce qu'on sait à ce moment-là, grâce à notre informateur sur place, c'est la route que va prendre le Falcon. En fait, on a la confirmation que ça va être la même route, hein, comme lors du premier passage. Il va mettre une douzaine d'heures à arriver de Carthagène sur la côte nord de la Colombie. Il va faire un ravitaillement au Caver et arriver à Biarritz le 30 novembre dans la soirée. Du coup, en vérité, la LS, elle a aussi permis ça, puisque le mode opérateur, on le connaît bien, et du coup, on est assez rodé là-dessus. À ce moment-là, on sait que la CAM est en train d'être chargée et pour son ordre d'arrivée, c'est une mission classique. On demande les arrivées prévues à l'aéroport, sur le chrono de l'aéroport, le jour même, et on comprend que l'avion va se poser sur le tarmac côté aéroport privé vers 18h30.
Et le jour J, le 30 novembre, toi, c'est quoi ton rôle ?
Moi, je suis côté hangar. Voilà, moi, je m'occupe de cette partie-là puisque c'est moi qui vais être sur l'interpellation. Avec une partie de l'équipe, on les surveille, on essaye de les prendre en photo depuis un camion de chantier, un sous-marin, hein, comme on appelle ça, pendant qu'une autre équipe va à l'aéroport. On attend les Colombiens qui vont accueillir la coque dans l'entrepôt. La pression est là, tu vois, c'est la dernière ligne droite, ça y est, on y est. Donc là, on a quadrillé tout le secteur. Donc on est ultra armé. On a des G36, fusils à pompe, des cartouches défraques, cagoules, bref, la totale. Tu vois, la même mino par balle, là on est prêt et équipé. On est en fin d'après-midi dans une zone d'activité un peu dégueu et on sait qu'on va jouer un peu eux et nous en vérité. On a déjà vu un peu l'entrepôt, on sait qu'il n'y a plus personne à ce moment-là. Il fait déjà nuit et là, on aperçoit les phares d'un camion qui avance. On a à peu près 2 heures avant que le Falcon qui transporte la CAM arrive.
Il est comment et sert à quoi ce camion?
C'est un gros camion à bestiaux gris, assez lambda. Avec nos caméras planquées dans le hangar et nos écoutes, on découvre comment ils vont déplacer les plusieurs centaines de kilos de cam. C'est des dingues, les mecs, hein. En fait, ils utilisent un système de double plancher qui permet d'habitude de servir d'étage pour empiler les animaux. C'est une planque de malade pensée pour caler la cocaïne au pain de coque près. C'est incramable par la douane en plus, et même s'il y a des scanners, et c'est rare, ils savent parfaitement ce qu'ils font.
Comment ça se passe à l'arrivée des Colombiens à l'aéroport de Biarritz?
Là, on a les collègues qui les planquent là-bas. La CAM arrive dans une trentaine de valises en grand format, celles qu'on utilise pour les voyages, les gros voyages, là, qui supportent 30 kilos à peu près. Ils sont une petite poignée, et parmi eux, il y a notre informateur, Diego, qui arrive tout droit de Medellin. Il rentre enfin au bercail, le pauvre. Mais ça, les trafiquants, ils ne savent pas qu'il est avec nous. Bref, l'équipe charge des sortes de vannes avec les valises et roule environ une vingtaine de minutes jusqu'à la zone d'activité.
Après un an de mission, tu sais que dans quelques minutes, tu vas donner l'assaut final. Comment tu te sens?
Mais je peux te dire que je suis au taquet. Là, pendant que les mecs les suivent et annoncent leur progression à la radio depuis Biarritz et qu'ils nous indiquent qu'ils vont arriver jusqu'au hangar, je t'avoue que le cœur il bat. Là, je suis dedans déjà. Là, j'attends que ça depuis un an. Mais t'imagines un peu? Ça fait un an que j'en rêve. Ça fait un an que je suis là, que je vois tout ça, que j'ai mis ma vie de côté, que j'ai envie d'y aller. Et là, mais je peux te dire, quand je vois les vannes arriver, les Colombiens, c'est exactement comment je l'avais imaginé. Les gars sont rapides, ils sont précis, ils sont beaux. C'est un cortège magnifique. Donc, bien évidemment, on est pro, donc ils déchargent, on les laisse décharger. Là, faut réussir à se maîtriser à ce moment-là. Je peux te dire que là, je les ai sur les dents, là. Donc, on les voit, ils sont 7 à l'intérieur. pour nous, tu vois, là on adore les voir travailler, mais il faut rester pro jusqu'au bout.
C'est quoi concrètement l'objectif pour vous ?
Là, c'est les choper en flag le plus rapidement possible. Rien n'est laissé au hasard. Pendant qu'ils transfèrent la coque dans des valises, tu vois, c'est le moment névralgique pour eux. On sait qu'ils vont se mettre en chemin très vite derrière. Donc si on les prend dans leur hangar, ils sont faits, ils n'ont aucune issue possible, ils sont comme des rats.
Et il n'y a que vous, il n'y a que des mecs des stupes ?
Mais non, en fait, dans ce genre d'opération, on fait venir aussi la BRI, puisque en fait, on a besoin de renforts. On est quand même en face de Medellin et des Colombiens. Donc là, il nous faut aussi nos gars. La BRI, c'est le groupe un peu d'action force de la PJ, donc ils sont avec nous. Ils sont ultra armés, ultra professionnels. C'est des boss, hein, ils sont très bien. Puis on a l'habitude de travailler ensemble, c'est des copains. Et en fait, comme on sait pas comment les gars à l'intérieur sont équipés, ils ont des liens à Madrid, ça on l'a vu plusieurs fois, je te l'ai expliqué, donc on sait pas trop ce qui nous attend.
Et qui doit donner le départ ?
Ben là, tu vois, celui qui va donner le départ, le top action, ben c'est moi. Là, je donne le top départ à toutes les équipes en place, à la DEA aux États-Unis. En gros, en simultané de notre pétage, il va y avoir un pétage à Chicago, à Miami, en Colombie, à Washington, à Los Angeles, à Madrid, en même temps. En fait, le but de cette manœuvre, c'est que là, on va se mettre à péter le cartel de Medellin. Donc, il faut pas qu'il y ait de déperdition de preuves. Il faut pas qu'il vide les coffres, faut pas qu'il y ait des gars en fuite. Et c'est sur moi que ça revient, tout ça. Donc, je peux te dire, je suis comme un fou. On sait aussi que les Colombiens, ils s'y attendent pas. Donc, quand ils vont se prendre deux colonnes de BRI dans la gueule, ils ont aucune chance de s'en sortir. On a tout verrouillé de notre côté. On attend juste un truc. Il est 19h. C'est qu'il faut que notre agent sorte du hangar.
Et une fois qu'il est sorti ?
Une fois qu'il est sorti, là, c'est top action. Clap, comme un clap de film. On déboule comme des oufs, sauf que ça se passe pas comme prévu. Putain, c'est un sacré bordel.
L'affaire B52 est une série de Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiri est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique. Claire Français est responsable de production. Lucine Dorso et Amy Faconnier sont chargées de production. L'illustration est de Luc Grieux. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.